Chapitre 7. Le gilet de soie. Notre chambre était, comme je l'ai dit, une grande mansarde, à moitié chambre. Il y avait des fenêtres aux autres logis d'adjoints. On ne sait pourquoi celui-ci était éclairé par une lucarne. Il était impossible de fermer complètement la porte qui frottait sur le plancher. Lorsque nous y montions le soir, abritant de la main notre bougie que menaçaient tous les courants d'air de la grande demeure, chaque fois nous essayions de fermer cette porte, chaque fois nous étions obligés d'y renoncer. Et toute la nuit, nous sentions autour de nous, pénétrant jusque dans notre chambre, le silence des trois greniers. C'est là que nous nous retrouvâmes, Augustin et moi, le soir de ce même jour d'hiver. Tandis qu'en un tour de main j'avais quitté tous mes vêtements et les avais jetés en tas sur une chaise au chevet de mon lit, mon compagnon, sans rien dire, commençait lentement à se déshabiller. Du lit de fer au rideau de cretonne décoré de pampres, où j'étais monté déjà, je le regardais faire. Tantôt il s'asseyait sur son lit bas et sans rideau, tantôt il se levait et marchait de long en large, tout en se dévêtant. La bougie qu'il avait posée sur une petite table d'osier tressée par des bohémiens jetait sur le mur son ombre errante et gigantesque. Tout au contraire de moi, il pliait et rangeait, d'un air distrait et amer, mais avec soin, ses habits d'écolier. Je le revois plaquant sur une chaise sa lourde ceinture, pliant sur le dossier sa blouse noire extraordinairement fripée et salie, retirant une espèce de paletot gros bleu qu'il avait sous sa blouse, et se penchant en me tournant le dos pour l'étaler sur le pied de son lit. Mais lorsqu'il se redressa et se retourna vers moi, je vis qu'il portait, au lieu du petit gilet à boutons de cuivre, qui était d'uniforme sous le paletot, un étrange gilet de soie, très ouvert, que fermait dans le bas un rang serré de petits boutons de nacre. C'était un vêtement d'une fantaisie charmante, comme devaient en porter les jeunes gens qui dansaient avec nos grands-mères dans les bals de 1830. Je me rappelle, en cet instant, le grand écolier paysan, nu-tête, car il avait soigneusement posé sa casquette sur ses autres habits, visage si jeune, si vaillant, et si durci déjà. Il avait repris sa marche à travers la chambre lorsqu'il se mit à déboutonner cette pièce mystérieuse d'un costume qui n'était pas le sien. Et il était étrange de le voir, en bras de chemise, avec son pantalon trop court, ses souliers boueux, mettant la main sur ce gilet de marquis. Dès qu'il l'eut touché, sortant brusquement de sa rêverie, il tourna la tête vers moi et me regarda d'un œil inquiet. J'avais un peu envie de rire. Il sourit en même temps que moi, et son visage s'éclaira. « Oh, dis-moi ce que c'est » fis-je enhardi à voix basse. « Où l'as-tu pris ?» Mais son sourire s'éteignit aussitôt. Il passa deux fois sur ses cheveux ras sa main lourde, et tout soudain, comme quelqu'un qui ne peut plus résister à son désir, il réendossa sur le fin jabot sa vareuse qu'il boutonna solidement et sa blouse fripée. Puis il hésita un instant en me regardant de côté. Finalement, il s'assit sur le bord de son lit, quitta ses souliers qui tombèrent bruyamment sur le plancher. Et, tout habillé comme un soldat au cantonnement d'alerte, il s'étendit sur son lit et souffla la bougie. Vers le milieu de la nuit, je m'éveillai soudain. Mône était au milieu de la chambre, debout, sa casquette sur la tête, et il cherchait au porte-manteau quelque chose, une pèlerine qu'il se mit sur le dos. La chambre était très obscure, pas même la clarté que donne parfois le reflet de la neige. Un vent noir et glacé soufflait dans le jardin mort et sur le toit. Je me dressai un peu et je lui criai tout bas « Mône, tu repars ?» Il ne répondit pas. Alors, tout à fait affolée, je dis « Eh bien, je pars avec toi, il faut que tu m'emmènes !» Et je sautai à bas. Il s'approcha, me saisit par le bras, me forçant à m'asseoir sur le rebord du lit, et il me dit « Je ne puis pas t'emmener, François. Si je connaissais bien mon chemin, tu m'accompagnerais. Mais il faut d'abord que je le retrouve sur le plan, et je n'y parviens pas. » « Alors, tu ne peux pas repartir non plus !»« C'est vrai, c'est bien inutile, » fit-il avec découragement. « Allons, recouche-toi, je te promets de ne pas repartir sans toi. » Et il reprit sa promenade de long en large dans la chambre. Je n'osais plus rien dire. Il marchait, s'arrêtait, repartait plus vite, comme quelqu'un qui, dans sa tête, recherche ou repasse des souvenirs, les confronte, les compare, calcule, et soudain pense avoir trouvé, puis de nouveau lâche le fil et recommence à chercher. Ce ne fut pas la seule nuit où, réveillé par le bruit de ses pas, je le trouvais ainsi, vers 1 heure du matin, déambulant à travers la chambre et les greniers, comme ces marins qui n'ont pu se déshabituer de faire le quart et qui, au fond de leur propriété bretonne, se lèvent et s'habillent à leur réglementaire pour surveiller la nuit terrienne. À 2 ou 3 reprises, durant le mois de janvier et la première quinzaine de février, je fus ainsi tiré de mon sommeil. Le grand Mône était là, dressé, tout équipé, sa pèlerine sur le dos, prêt à partir. Et chaque fois, au bord de ce pays mystérieux où une fois déjà il s'était évadé, il s'arrêtait. Hésitait. Au moment de lever le loquet de la porte de l'escalier et de filer par la porte de la cuisine, qu'il eût facilement ouverte sans que personne l'entendît, il reculait une fois encore. Puis, durant les longues heures du milieu de la nuit, fiévreusement, il arpentait, en réfléchissant, les greniers abandonnés. Enfin, une nuit, vers le 15 février, ce fut lui-même qui m'éveilla en me posant doucement la main sur l'épaule. La journée avait été fort agitée. Mône, qui délaissait complètement tous les jeux de ses anciens camarades, était resté, durant la dernière récréation du soir, assis sur son banc, tout occupé à établir un mystérieux petit plan, en suivant du doigt et en calculant longuement sur l'atlas du Cher. Un va-et-vient incessant se produisait entre la cour et la salle de classe. Les sabots claquaient, on se pourchassait de table en table, franchissant les bancs et l'estrade d'un saut. On savait qu'il ne faisait pas bon s'approcher de Mône lorsqu'il travaillait ainsi. Cependant, comme la récréation se prolongeait, 2 ou 3 gamins du bourg, par manière de jeu, s'approchèrent à pas de loup et regardèrent par-dessus son épaule. L'un d'eux s'enhardit jusqu'à pousser les autres sur Mône. Il ferma brusquement son atlas, cacha sa feuille et empoigna le dernier des 3 gars, tandis que les 2 autres avaient pu s'échapper. C'était ce hargneux Giroda qui prit un ton pleurard, essaya de donner des coups de pied et, en fin de compte, fut mis dehors par le grand Mône, à qui il cria rageusement « Grand lâche !» « Ça ne m'étonne pas qu'ils sont tous contre toi, qu'ils veulent te faire la guerre. » Et une foule d'injures auxquelles nous répondîmes, sans avoir bien compris ce qu'il avait voulu dire. C'est moi qui criai le plus fort, car j'avais pris le parti du grand Mône. Il y avait maintenant comme un pacte entre nous. La promesse qu'il m'avait faite de m'emmener avec lui, sans me dire, comme tout le monde, que je ne pourrais pas marcher, m'avait lié à lui pour toujours. Et je ne cessais de penser à son mystérieux voyage. Je m'étais persuadée qu'il avait dû rencontrer une jeune fille. Elle était sans doute infiniment plus belle que toutes celles du pays, plus belle que Jeanne, qu'on apercevait dans le jardin des religieuses par le trou de la serrure, et que Madeleine, la fille du boulanger, toute rose et toute blonde, et que Jenny, la fille de la châtelaine, qui était admirable, mais folle et toujours enfermée. C'est à une jeune fille, certainement, qu'il pensait la nuit, comme un héros de roman. Et j'avais décidé de lui en parler, bravement, la première fois qu'il m'éveillerait. Le soir de cette nouvelle bataille, après 4 heures, nous étions tous les deux occupés à rentrer des outils du jardin, des pics et des pelles qui avaient servi à creuser des trous, lorsque nous entendîmes des cris sur la route. C'était une bande de jeunes gens et de gamins, en colonne par 4, au pas gymnastique, évoluant comme une compagnie parfaitement organisée, conduit par 2 louches, Daniel, Giroda et un autre que nous ne connûmes point. Ils nous avaient aperçus, et ils nous huaient de la belle façon. Ainsi, tout le bourg était contre nous, et l'on préparait je ne sais quel jeu guerrier dont nous étions exclus. Moon, sans mot dire, remisa sous le hangar la bêche et la pioche qu'il avait sur l'épaule. Mais, à minuit, je sentais sa main sur mon bras et je m'éveillais en sursaut. « Lève-toi, » dit-il, « nous partons. Connais-tu maintenant le chemin jusqu'au bout ? J'en connais une bonne partie, et il faudra bien que nous trouvions le reste, » répondit-il, les dents serrées. « Écoute, Moon, » fis-je en me mettant sur mon séant. « Écoute-moi, nous n'avons qu'une chose à faire, c'est de chercher tous les deux en plein jour, en nous servant de ton plan, la partie du chemin qui nous manque. « Mais cette portion-là est très loin d'ici. Eh bien, nous irons en voiture cet été, dès que les journées seront longues. » Il y eut un silence prolongé qui voulait dire qu'il acceptait. Puisque nous tâcherons ensemble de retrouver la jeune fille que tu aimes, Moon, ajoutai-je enfin. Dis-moi qui elle est, parle-moi d'elle. Il s'assit sur le pied de mon lit. Je voyais dans l'ombre sa tête penchée, ses bras croisés et ses genoux. Puis il aspira l'air fortement, comme quelqu'un qui a eu gros cœur longtemps et qui va enfin confier son secret. Chapitre 8. L'aventure. Mon compagnon ne me conta pas cette nuit-là tout ce qui lui était arrivé sur la route. Et même lorsqu'il se fut décidé à me tout confier, durant des jours de détresse dont je reparlerai, ce resta longtemps le grand secret de nos adolescences. Mais aujourd'hui que tout est fini, maintenant qu'il ne reste plus que poussière de tant de mal, de tant de bien, je puis raconter son étrange aventure. À 1h30 de l'après-midi, sur la route de Vierzon, par ce temps glacial, Moon fit marcher la bête bon train, car il savait n'être pas en avance. Il ne songea d'abord, pour s'en amuser, qu'à notre surprise à tous, lorsqu'il ramènerait dans la carriole, à 4 heures, le grand-père et la grand-mère charpentier. Car, à ce moment-là, certes, il n'avait pas d'autre intention. Peu à peu, le froid le pénétrant, il s'enveloppa les jambes dans une couverture qu'il avait d'abord refusée et que les gens de la Belle Étoile avaient mise de force dans la voiture. À 2 heures, il traversa le bourg de la Motte. Il n'était jamais passé dans un petit pays aux heures de classe, et s'amusa de voir celui-là aussi désert, aussi endormi. C'est à peine si, de loin en loin, un rideau se leva, montrant une tête curieuse de bonne femme. À la sortie de la Motte, aussitôt après la maison d'école, il hésita entre 2 routes, et crut se rappeler qu'il fallait tourner à gauche pour aller à Vierzon. Personne n'était là pour le renseigner. Il remit sa jument au trot sur la route, désormais plus étroite et mal empierrée. Il longea quelque temps un bois de sapins et rencontra enfin un roulier à qui il demanda, mettant sa main en porte-voix, s'il était bien là sur la route de Vierzon. La jument, tirant sur les guides, continuait à trotter. L'homme ne dut pas comprendre ce qu'on lui demandait. Il cria quelque chose en faisant un geste vague, et à tout hasard, Maud poursuivit sa route. De nouveau, ce fut la vaste campagne gelée, sans accident ni distraction aucune. Parfois, seulement une pie s'envolait, effrayée par la voiture, pour aller se percher plus loin sur un orme sans tête. Le voyageur avait enroulé autour de ses épaules, comme une cape, sa grande couverture. Les jambes allongées, accoudées sur un côté de la carriole, il dut somnoler un assez long moment. Lorsque, grâce au froid qui traversait maintenant la couverture, Maune eut repris ses esprits, il s'aperçut que le paysage avait changé. Ce n'étaient plus ces horizons lointains, ce grand ciel blanc où se perdait le regard, mais de petits prés encore verts avec de hautes clôtures. À droite et à gauche, l'eau des fossés coulait sous la glace. Tout faisait pressentir l'approche d'une rivière. Et, entre les hautes haies, la route n'était plus qu'un étroit chemin défoncé. La jument, depuis un instant, avait cessé de trotter. D'un coup de fouet, Maune voulut lui faire reprendre sa vive allure. Mais elle continua à marcher au pas avec une extrême lenteur. Et le grand écolier, regardant de côté, les mains appuyées sur le devant de la voiture, s'aperçut qu'elle boitait d'une jambe de derrière. Aussitôt, il sauta à terre, très inquiet. « Jamais nous n'arriverons à Vierzon pour le train !» dit-il à mi-voix. Et il n'osait pas s'avouer sa pensée la plus inquiétante, à savoir que peut-être il s'était trompé de chemin et qu'il n'était plus là sur la route de Vierzon. Il examina longuement le pied de la bête et n'y découvrit aucune trace de blessure. Très craintive, la jument levait la patte dès que Maune voulait la toucher et gratter le sol de son sabot lourd et maladroit. Il comprit enfin qu'elle avait tout simplement un caillou dans le sabot. En gars expert au maniement du bétail, il s'accroupit, tenta de lui saisir le pied droit avec sa main gauche et de le placer entre ses genoux, mais il fut gêné par la voiture. À deux reprises, la jument se déroba et avança de quelques mètres. Le marchepied vint le frapper à la tête et la roue le blessa au genou. Il s'obstina et finit par triompher de la bête peureuse. Mais le caillou se trouvait si bien enfoncé que Maune dut sortir son couteau de paysan pour en venir à bout. Lorsqu'il eut terminé sa besogne et qu'il releva enfin la tête, à demi étourdi et les yeux troubles, il s'aperçut avec stupeur que la nuit tombait. Tout autre que Maune eût immédiatement rebroussé chemin. C'était le seul moyen de ne pas s'égarer davantage. Mais il réfléchit qu'il devait être maintenant fort loin de la motte. En outre, la jument pouvait avoir pris un chemin transversal pendant qu'il dormait. Enfin, ce chemin-là devait bien, à la longue, mener vers quelque village. Ajoutez à toutes ces raisons que le grand gars, en remontant sur le marchepied, tandis que la bête impatiente tirait déjà sur les guides, sentait grandir en lui le désir exaspéré d'aboutir à quelque chose et d'arriver quelque part, en dépit de tous les obstacles. Il fouetta la jument qui fit un écart et se remit au grand trot. L'obscurité croissait. Dans le sentier raviné, il y avait maintenant tout juste passage pour la voiture. Parfois, une branche morte de la haie se prenait dans la roue et se cassait avec un bruit sec. Lorsqu'il fit tout à fait noir, Maune songea soudain, avec un serrement de cœur, à la salle à manger de Sainte Agathe, où nous devions, à cette heure, être tous réunis. Puis la colère le prit, puis l'orgueil et la joie profonde de s'être ainsi évadé, sans l'avoir voulu. Chapitre 9. Une halte. Soudain, la jument ralentit son allure, comme si son pied avait buté dans l'ombre. Maune vit sa tête plonger et se relever par deux fois. Puis elle s'arrêta net, les naseaux bas, semblant humer quelque chose. Autour des pieds de la bête, on entendait comme un clapotis d'eau. Un ruisseau coupait le chemin. En été, ce devait être un gué. Mais à cette époque, le courant était si fort que la glace n'avait pas pris et qu'il eût été dangereux de pousser plus avant. Maune tira doucement sur les guides pour reculer de quelques pas et, très perplexe, se dressa dans la voiture. C'est alors qu'il aperçut, entre les branches, une lumière. Deux ou trois prés seulement devaient la séparer du chemin. L'écolier descendit de voiture et ramena la jument en arrière, en lui parlant pour la calmer, pour arrêter ses brusques coups de tête effrayés. « Allons, ma vieille, allons, maintenant nous n'irons pas plus loin. Nous saurons bientôt où nous sommes arrivés. » Et, poussant la barrière entr'ouverte d'un petit pré qui donnait sur le chemin, il fit entrer là son équipage. Ses pieds enfonçaient dans l'herbe molle. La voiture cahotait silencieusement. Sa tête, contre celle de la bête, il sentait sa chaleur et le souffle dur de son haleine. Il la conduisit tout au bout du pré, lui mit sur le dos la couverture, puis, écartant les branches de la clôture du fond, il aperçut de nouveau la lumière, qui était celle d'une maison isolée. Il lui fallut bien, tout de même, traverser trois prés, sauter un traître petit ruisseau, où il faillit plonger les deux pieds à la fois. Enfin, après un dernier saut du haut d'un talus, il se trouva dans la cour d'une maison campagnarde. Un cochon grognait dans son tais. Au bruit des pas sur la terre gelée, un chien se mit à aboyer avec fureur. Le volet de la porte était ouvert, et la lueur que Maune avait aperçue était celle d'un feu de fagot allumé dans la cheminée. Il n'y avait pas d'autre lumière que celle du feu. Une bonne femme, dans la maison, se leva et s'approcha de la porte, sans paraître autrement effrayée. L'horloge à poids, juste à cet instant, sonna la demie de 7 heures. « Excusez-moi, ma pauvre dame, dit le grand garçon. « Je crois bien que j'ai mis le pied dans vos chrysanthèmes. » Arrêtée, un bol à la main, elle le regardait. « Il est vrai, dit-elle, qu'il fait noir dans la cour à ne pas s'y conduire. » Il y eut un silence, pendant lequel Maune, debout, regarda les murs de la pièce, tapissée de journaux illustrés comme une auberge, et la table sur laquelle un chapeau d'homme était posé. « Il n'est pas là, le patron ? » dit-il en s'asseyant. « Il va revenir, » répondit la femme, mise en confiance. « Il est allé chercher un fagot. »« Ce n'est pas que j'ai besoin de lui, » poursuivit le jeune homme en rapprochant sa chaise du feu. « Mais nous sommes là plusieurs chasseurs à l'affût. Je suis venu vous demander de nous céder un peu de pain. » Il savait, le grand Maune, que chez les gens de campagne, et surtout dans une ferme isolée, il faut parler avec beaucoup de discrétion, de politique même, et surtout ne jamais montrer qu'on n'est pas du pays. « Du pain, » dit-elle, « nous ne pourrons guère vous en donner. Le boulanger qui passe pourtant tous les mardis n'est pas venu aujourd'hui. » Augustin, qui avait espéré un instant se trouver à proximité d'un village, s'effraya. « Le boulanger de quel pays ? » demanda-t-il. « Eh bien, le boulanger du vieux Nancy, » répondit la femme avec étonnement. « C'est à quelle distance d'ici, au juste, le vieux Nancy ? » poursuivit Maune très inquiet. « Par la route, je ne saurais pas vous dire, au juste, mais par la traverse, il y a 3 lieues et demie. » Et elle se mit à raconter qu'elle y avait sa fille en place, qu'elle venait à pied pour la voir tous les premiers dimanches du mois, et que ses patrons... Mais Maune, complètement déroutée, l'interrompit pour dire « Le vieux Nancy, serait-il le bourg le plus rapproché d'ici ?»« Non, c'est les Landes, à 5 kilomètres. Mais il n'y a pas de marchand ni de boulanger. Il y a tout juste une petite assemblée chaque année à la Saint-Martin. Moon n'avait jamais entendu parler des Landes. Il se vit à tel point égaré qu'il en fut presque amusé. Mais la femme, qui était occupée à laver son bol sur l'évier, se retourna, curieuse à son tour, et elle dit lentement, en le regardant bien droit, « Sait-il que vous n'êtes pas du pays ?» À ce moment, un paysan âgé se présenta à la porte, avec une brassée de bois qu'il jeta sur le carreau. La femme lui expliqua, très fort, comme s'il eût été sourd, ce que demandait le jeune homme. « Eh bien, c'est facile, » dit-il simplement. « Mais approchez-vous, monsieur, vous ne vous chauffez pas. » Tous les deux, un instant plus tard, ils étaient installés près des chenets, le vieux cassant son bois pour le mettre dans le feu, Maune mangeant un bol de lait avec du pain qu'on lui avait offert. Notre voyageur, ravi de se trouver dans cette humble maison après tant d'inquiétudes, pensant que sa bizarre aventure était terminée, faisait déjà le projet de revenir plus tard avec des camarades, revoir ces braves gens. Il ne savait pas que c'était là seulement une halte et qu'il allait tout à l'heure reprendre son chemin. Il demanda bientôt qu'on le remît sur la route de la Motte, et, revenant peu à peu à la vérité, il raconta qu'avec sa voiture, il s'était séparé des autres chasseurs et se trouvait maintenant complètement égaré. Alors, l'homme et la femme insistèrent si longtemps pour qu'il restât couché et repartît seulement au grand jour, que Maune finit par accepter et sortit chercher sa jument pour la rentrer à l'écurie. « Vous prendrez garde au trou de la Sente, » lui dit l'homme. Maune n'osa pas avouer qu'il n'était pas venu par la Sente. Il fut sur le point de demander au brave homme de l'accompagner. Il hésita une seconde sur le seuil, et si grande était son indécision qu'il faillit chanceler, puis il sortit dans la cour obscure. Chapitre 10. La bergerie. Pour s'y reconnaître, il grimpa sur le talus d'où il avait sauté. Lentement et difficilement, comme à l'aller, il se guida entre les herbes et les eaux, à travers les clôtures de saule, et s'en fut chercher sa voiture dans le fond du pré où il l'avait laissée. La voiture n'y était plus. Immobile, la tête battante, il s'efforça d'écouter tous les bruits de la nuit, croyant à chaque seconde entendre sonner tout près le collier de la bête. Rien. Il fit le tour du pré. La barrière était à demi ouverte, à demi renversée, comme si une roue de voiture avait passé dessus. La jument avait dû, par là, s'échapper toute seule. Remontant le chemin, il fit quelques pas et s'embarrassa les pieds dans la couverture, qui sans doute avait glissé de la jument à terre. Il en conclut que la bête s'était enfuie dans cette direction. Il se prit à courir. Sans autre idée que la volonté tenace et folle de rattraper sa voiture, tout le sang au visage, en proie à ce désir panique qui ressemblait à la peur, il courait. Parfois son pied butait dans les ornières. Au tournant, dans l'obscurité totale, il se jetait contre les clôtures. Et, déjà trop fatigué pour s'arrêter à temps, s'abattait sur les épines, les bras en avant, se déchirant les mains pour se protéger le visage. Parfois, il s'arrêtait, écoutait, et repartait. Un instant, il crut entendre un bruit de voiture, mais ce n'était qu'un tombereau cahotant qui passait très loin, sur une route, à gauche. Vint un moment où son genou, blessé au marchepied, lui fit si mal qu'il dut s'arrêter, la jambe raidie. Alors il réfléchit que si sa jument ne s'était pas sauvée au grand galop, il l'aurait depuis longtemps rejointe. Il se dit aussi qu'une voiture ne se perdait pas ainsi et que quelqu'un la retrouverait bien. Enfin il revint sur ses pas, épuisé, colère, se traînant à peine. À la longue, il crut se retrouver dans les parages qu'il avait quittés, et bientôt il aperçut la lumière de la maison qu'il cherchait. Un sentier profond s'ouvrait dans la haie. « Voilà la sente dont le vieux m'a parlé, » se dit Augustin. Et il s'engagea dans ce passage, heureux de n'avoir plus à franchir les haies et les talus. Au bout d'un instant, le sentier déviant à gauche, la lumière parut glisser à droite, et, parvenu à un croisement de chemin, Mône, dans sa hâte à regagner le pauvre logis, suivit sans réfléchir un sentier qui paraissait directement y conduire. Mais à peine avait-il fait 10 pas dans cette direction que la lumière disparut, soit qu'elle fût cachée par une haie, soit que les paysans, fatigués d'attendre, eussent fermé leurs volets. Courageusement, l'écolier sauta à travers champs, marcha tout droit dans la direction où la lumière avait brillé tout à l'heure. Puis, franchissant encore une clôture, il retomba dans un nouveau sentier. Ainsi, peu à peu, s'embrouillait la piste du grand Mône et se brisait le lien qui l'attachait à ceux qu'il avait quittés. Découragé, presque à bout de force, il résolut, dans son désespoir, de suivre ce sentier jusqu'au bout. À 100 pas de là, il débouchait dans une grande prairie grise, où l'on distinguait de loin en loin des ombres qui devaient être des genévriers, et une bâtisse obscure dans un repli de terrain. Mône s'en approcha. Ce n'était là qu'une sorte de grand parc à bétail ou de bergerie abandonnée. La porte céda avec un gémissement. La lueur de la lune, quand le grand vent chassait les nuages, passait à travers les fentes des cloisons. Une odeur de moisi régnait. Sans chercher plus avant, Mône s'étendit sur la paille humide, le coude à terre, la tête dans la main. Ayant retiré sa ceinture, il se recroquevilla dans sa blouse, les genoux au ventre. Il songea alors à la couverture de la jument qu'il avait laissée dans le chemin, et il se sentit si malheureux, si fâché contre lui-même, qu'il lui prit une forte envie de pleurer. Aussi s'efforça-t-il de penser à autre chose. Glacé jusqu'aux moelles, il se rappela un rêve, une vision plutôt, qu'il avait eue tout enfant, et dont il n'avait jamais parlé à personne. Un matin, au lieu de s'éveiller dans sa chambre, où pendaient ses culottes et ses paletots, il s'était trouvé dans une longue pièce verte, aux tentures pareilles à des feuillages. En ce lieu coulait une lumière si douce qu'on eût cru pouvoir la goûter. Près de la première fenêtre, une jeune fille cousait, le dos tourné, semblant attendre son réveil. Il n'avait pas eu la force de se glisser hors de son lit pour marcher dans cette demeure enchantée. Il s'était rendormi. Mais la prochaine fois, il jurait bien de se lever. Demain matin, peut-être. Chapitre 11. Le domaine mystérieux. Dès le petit jour, il se reprit à marcher. Mais son genou enflé lui faisait mal. Il lui fallait s'arrêter et s'asseoir à chaque moment, tant la douleur était vive. L'endroit où il se trouvait était d'ailleurs le plus désolé de la Sologne. De toute la matinée, il ne vit qu'une bergère à l'horizon qui ramenait son troupeau. Il eut beau la héler, essayer de courir, elle disparut sans l'entendre. Il continua cependant de marcher dans sa direction avec une désolante lenteur. Pas un toit, pas une âme, pas même le cri d'un courlis dans les roseaux des marais. Et sur cette solitude parfaite, brillait un soleil de décembre, clair et glacial. Il pouvait être 3 heures de l'après-midi lorsqu'il aperçut enfin, au-dessus d'un bois de sapin, la flèche d'une tourelle grise. « Quelque vieux manoir abandonné, se dit-il, quelque pigeonnier désert. » Et, sans presser le pas, il continua son chemin. Au coin du bois débouchait, entre 2 poteaux blancs, une allée où Mône s'engagea. Il y fit quelques pas et s'arrêta, plein de surprise, troublé d'une émotion inexplicable. Il marchait pourtant du même pas fatigué. Le vent glacé lui gerçait les lèvres, le suffoquait par instants. Et pourtant, un contentement extraordinaire le soulevait, une tranquillité parfaite et presque enivrante, la certitude que son but était atteint et qu'il n'y avait plus maintenant que du bonheur à espérer. C'est ainsi que, jadis, la veille des grandes fêtes d'été, il se sentait défaillir. Lorsqu'à la tombée de la nuit, on plantait des sapins dans les rues du bourg et que la fenêtre de sa chambre était obstruée par les branches. « Tant de joie !» se dit-il, « parce que j'arrive à ce vieux pigeonnier, plein de hibou et de courant d'air !» Et, fâché contre lui-même, il s'arrêta, se demandant s'il ne valait pas mieux rebrousser chemin et continuer jusqu'au prochain village. Il réfléchissait depuis un instant, la tête basse, lorsqu'il s'aperçut soudain que l'allée était balayée à grands ronds réguliers, comme on faisait chez lui pour les fêtes. Il se trouvait dans un chemin pareil à la grand-rue de la Ferté, le matin de l'Assomption. Il eut aperçu au détour de l'allée une troupe de gens en fête soulevant la poussière, comme au mois de juin, qu'il n'eût pas été surpris davantage. « Y aurait-il une fête dans cette solitude ?» se demanda-t-il. Avançant jusqu'au premier détour, il entendit un bruit de voix qui s'approchait. Il se jeta de côté dans les jeunes sapins touffus, s'accroupit et écouta en retenant son souffle. C'étaient des voix enfantines. Une troupe d'enfants passa tout près de lui. L'un d'eux, probablement une petite fille, parlait d'un ton si sage et si entendu que Maun, bien qu'il ne comprît guère le sens de ses paroles, ne put s'empêcher de sourire. « Une seule chose m'inquiète, disait-elle. C'est la question des chevaux. On n'empêchera jamais Daniel, par exemple, de monter sur le grand poney jaune. » « Jamais on ne m'en empêchera, répondit une voix moqueuse de jeune garçon. Est-ce que nous n'avons pas toutes les permissions, même celle de nous faire mal, s'il nous plaît ? » Et les voix s'éloignèrent, au moment où s'approchait déjà un autre groupe d'enfants. Si la glace est fondue, dit une fillette, demain matin nous irons en bateau. Mais nous le permettra-t-on ? Dit une autre. Vous savez bien que nous organisons la fête à notre guise. Et si France rentrait dès ce soir avec sa fiancée? Eh bien, il ferait ce que nous voudrions. Il s'agit d'une noce, sans doute, se dit Augustin. Mais ce sont les enfants qui font la loi ici. Étrange domaine. Il voulut sortir de sa cachette pour leur demander où l'on trouverait à boire et à manger. Il se dressa et vit le dernier groupe qui s'éloignait. C'étaient trois fillettes avec des robes droites qui s'arrêtaient aux genoux. Elles avaient de jolis chapeaux à brides. Une plume blanche leur traînait dans le cou à toutes les trois. L'une d'elles, à demi retournée, un peu penchée, écoutait sa compagne qui lui donnait de grandes explications, le doigt levé. « Je leur ferai peur, » se dit Maun, en regardant sa blouse paysanne déchirée et son ceinturon baroque de collégien de Sainte-Agathe. Craignant que les enfants ne le rencontrassent en revenant par l'allée, il continua son chemin à travers les sapins dans la direction du pigeonnier, sans trop réfléchir à ce qu'il pourrait demander là-bas. Il fut bientôt arrêté à la lisière du bois par un petit mur moussu. De l'autre côté, entre le mur et les annexes du domaine, c'était une longue cour étroite, toute remplie de voitures, comme une cour d'auberge un jour de foire. Il y en avait de tous les genres et de toutes les formes, de fines petites voitures à quatre places, les brancards en l'air, des chars à bancs, des bourbonnaises démodées avec des galeries à moulures, et même de vieilles berlines dont les glaces étaient levées. Maun, caché derrière les sapins, de crainte qu'on ne l'aperçût, examinait le désordre du lieu lorsqu'il avisa, de l'autre côté de la cour, juste au-dessus du siège d'un haut char à banc, une fenêtre des annexes à demi ouverte. deux barreaux de fer, comme on en voit derrière les domaines aux volets toujours fermés des écuries, avaient dû clore cette ouverture, mais le temps les avait décellés. « Je vais entrer là, » se dit l'écolier. « Je dormirai dans le foin et je partirai au beau du jour, sans avoir fait peur à ces belles petites filles. » Il franchit le mur, péniblement à cause de son genou blessé, et, passant d'une voiture sur l'autre, du siège d'un char à banc sur le toit d'une berline, il arriva à la hauteur de la fenêtre qu'il poussa sans bruit comme une porte. Il se trouvait, non pas dans un grenier à foin, mais dans une vaste pièce au plafond bas qui devait être une chambre à coucher. On distinguait, dans la demi-obscurité du soir d'hiver, que la table, la cheminée et même les fauteuils étaient chargés de grands vases, d'objets de prix, d'armes anciennes. Au fond de la pièce, des rideaux tombaient qui devaient cacher une alcôve. Maud avait fermé la fenêtre, tant à cause du froid que par crainte d'être aperçu du dehors. Il alla soulever le rideau du fond et découvrit un grand lit bas, couvert de vieux livres dorés, de luttes aux cordes cassées et de candélabres jetés pêle-mêle. Il repoussa toutes ces choses dans le fond de l'alcôve, puis s'étendit sur cette couche pour s'y reposer et réfléchir un peu à l'étrange aventure dans laquelle il s'était jeté. Un silence profond régnait sur ce domaine. Par instants seulement, on entendait gémir le grand vent de décembre. Et Maud, étendue, en venait à se demander si, malgré ces étranges rencontres, malgré la voix des enfants dans l'allée, malgré les voitures entassées, ce n'était pas là simplement, comme il l'avait pensé d'abord, une vieille bâtisse abandonnée dans la solitude de l'hiver. Il lui sembla bientôt que le vent lui portait le son d'une musique perdue. C'était comme un souvenir plein de charme et de regrets. Il se rappela le temps où sa mère, jeune encore, se mettait au piano l'après-midi dans le salon, et lui, sans rien dire, derrière la porte qui donnait sur le jardin, il l'écoutait jusqu'à la nuit. « On dirait que quelqu'un joue du piano quelque part, » pensa-t-il. Mais laissant sa question sans réponse, harassé de fatigue, il ne tarda pas à s'endormir. Chapitre 12. La chambre de Willington. Il faisait nuit lorsqu'il s'éveilla. Transi de froid, il se tourna et retourna sur sa couche, fripant et roulant sous lui sa blouse noire. Une faible clarté glauque baignait les rideaux de l'alcôve. S'asseyant sur le lit, il glissa sa tête entre les rideaux. Quelqu'un avait ouvert la fenêtre, et l'on avait attaché dans l'embrasure deux lanternes vénitiennes vertes. Mais à peine Maud avait-il pu jeter un coup d'œil qu'il entendit sur le palier un bruit de pas étouffés et de conversation à voix basse. Il se rejeta dans l'alcôve, et ses souliers ferrés firent sonner un des objets de bronze qu'il avait repoussé contre le mur. Un instant, très inquiet, il retint son souffle. Les pas se rapprochèrent, et deux ombres glissèrent dans la chambre. « Ne fais pas de bruit !» disait l'un. « Ah !» répondait l'autre. « Il est toujours bien temps qu'il s'éveille. As-tu garni sa chambre ?»« Mais oui, comme celle des autres. » Le vent fit battre la fenêtre ouverte. « Tiens !» dit le premier. « Tu n'as pas même fermé la fenêtre. Le vent a déjà éteint une des lanternes. Il va falloir la rallumer. »« Bah !» répondit l'autre, pris d'une paresse et d'un découragement soudain. « À quoi bon ces illuminations du côté de la campagne, du côté du désert, autant dire? Il n'y a personne pour les voir. »« Personne? Mais il arrivera encore des gens pendant une partie de la nuit, là-bas sur la route, dans leur voiture. Ils seront bien contents d'apercevoir nos lumières. » Maud entendit craquer une allumette. Celui qui avait parlé le dernier, et qui paraissait être le chef, reprit d'une voix traînante, à la façon d'un fossoyeur de Shakespeare, « Tu mets des lanternes vertes à la chambre de Wellington. T'en mettrais aussi bien des rouges, tu ne t'y connais pas plus que moi. » Un silence. Wellington, c'était un Américain? Eh bien, c'est-il une couleur américaine, le vert? Toi, le comédien qui a voyagé, tu devrais savoir ça. Oh là là, répondit le comédien. Voyager, oui, j'ai voyagé, mais je n'ai rien vu. Que veux-tu voir dans une roulotte? Moon, avec précaution, regarda entre les rideaux. Celui qui commandait la manœuvre était un gros homme, nu-tête, enfoncé dans un énorme paletot. Il tenait à la main une longue perche garnie de lanternes multicolores, et il regardait paisiblement, une jambe croisée sur l'autre, travailler son compagnon. Quant au comédien, c'était le corps le plus lamentable qu'on puisse imaginer. Grand, maigre, grelottant, ses yeux glauques et louches, sa moustache retombant sur sa bouche édentée, faisait songer à la face d'un noyer qui ruisselle sur une dalle. Il était en manche de chemise et ses dents claquaient. Il montrait dans ses paroles et ses gestes le mépris le plus parfait pour sa propre personne. Après un moment de réflexion amère et risible à la fois, il s'approcha de son partenaire et lui confia, les deux bras écartés, « Veux-tu que je te dise? Je ne peux pas comprendre qu'on soit allé chercher des dégoûtants comme nous pour servir dans une fête pareille. Voilà, mon gars !» Mais, sans prendre garde à ce grand élan du cœur, le gros homme continua de regarder son travail, les jambes croisées, bâilla, renifla tranquillement, puis, tournant le dos, s'en fut, sa perche sur l'épaule, en disant « Allons, en route, il est temps de s'habiller pour le dîner. » Le bohémien le suivit, mais, en passant devant l'alcôve, « Monsieur l'endormi, fit-il avec des révérences et des inflexions de voix gouailleuses, vous n'avez qu'à vous éveiller, à vous habiller en marquis, même si vous êtes un marmiteux comme je suis. Et vous descendrez à la fête costumé, puisque c'est le bon plaisir de ces petits messieurs et de ces petites demoiselles. » Il ajouta sur le ton d'un boniment forain avec une dernière révérence. « Notre camarade Maloyau, attaché aux cuisines, vous présentera le personnage d'Arlequin, et votre serviteur, celui du grand Pierrot. » Chapitre 13. La fête étrange. Dès qu'ils eurent disparu, l'écolier sortit de sa cachette. Il avait les pieds glacés, les articulations raides, mais il était reposé et son genou paraissait guéri. Descendre au dîner, pensa-t-il, je ne manquerai pas de le faire. Je serai simplement un invité dont tout le monde a oublié le nom. D'ailleurs, je ne suis pas un intrus ici. Il est hors de doute que M. Maloyau et son compagnon m'attendaient. Au sortir de l'obscurité totale de l'alcôve, il put y voir assez distinctement dans la chambre éclairée par les lanternes vertes. Le bohémien l'avait garni. Des manteaux étaient accrochés au patère. Sur une lourde table à toilette, au marbre brisé, on avait disposé de quoi transformer en muscadin tel garçon qui eût passé la nuit précédente dans une bergerie abandonnée. Il y avait sur la cheminée des allumettes auprès d'un grand flambeau. Mais on avait omis de cirer le parquet. Et Moon sentit rouler sous ses souliers du sable et des gravats. De nouveau, il eut l'impression d'être dans une maison depuis longtemps abandonnée. En allant vers la cheminée, il faillit buter contre une pile de grands cartons et de petites boîtes. Il étendit le bras, alluma la bougie, puis souleva les couvercles et se pencha pour regarder. C'étaient des costumes de jeunes gens d'il y a longtemps, des redingotes à haut col de velours, de fins gilets très ouverts, d'interminables cravates blanches et des souliers vernis du début de ce siècle. Il n'osait rien toucher du bout du doigt, mais après s'être nettoyé en frissonnant, il endossa sur sa blouse d'écolier un des grands manteaux dont il releva le collet plissé, remplaça ses souliers ferrés par de fins escarpins vernis et se prépara à descendre nu-tête. Il arriva, sans rencontrer personne, au bas d'un escalier de bois, dans un recoin de cour obscure. La laine glacée de la nuit vint lui souffler au visage et soulever un pan de son manteau. Il fit quelques pas, et, grâce à la vague clarté du ciel, il put se rendre compte aussitôt de la configuration des lieux. Il était dans une petite cour formée par des bâtiments des dépendances. Tout y paraissait vieux et ruiné. Les ouvertures au bas des escaliers étaient béantes, car les portes depuis longtemps avaient été enlevées. On n'avait pas non plus remplacé les carreaux des fenêtres qui faisaient des trous noirs dans les murs. Et pourtant, toutes ces bâtisses avaient un mystérieux air de fête. Une sorte de reflet coloré flottait dans les chambres basses, où l'on avait dû allumer aussi, du côté de la campagne, des lanternes. La terre était balayée, on avait arraché l'herbe envahissante. Enfin, en prêtant l'oreille, Maune crut entendre comme un chant, comme des voix d'enfants et de jeunes filles, là-bas, vers les bâtiments confus où le vent secouait des branches devant les ouvertures roses, vertes et bleues des fenêtres. Il était là, dans son grand manteau, comme un chasseur, à demi penché, prêtant l'oreille, lorsqu'un extraordinaire petit jeune homme sortit du bâtiment voisin qu'on aurait cru désert. Il avait un chapeau haut de forme très cintré qui brillait dans la nuit comme s'il eût été d'argent. Un habit dont le col lui montait dans les cheveux, un gilet très ouvert, un pantalon à sous-pieds. Cet élégant, qui pouvait avoir 15 ans, marchait sur la pointe des pieds comme s'il eût été soulevé par les élastiques de son pantalon, mais avec une rapidité extraordinaire. Il salua Maune au passage, sans s'arrêter, profondément, automatiquement, et disparut dans l'obscurité, vers le bâtiment central. Ferme, château ou abbaye, dont la tourelle avait guidé l'écolier au début de l'après-midi. Après un instant d'hésitation, notre héros emboîta le pas au curieux petit personnage. Ils traversèrent une sorte de grande cour-jardin, passèrent entre des massifs, contournèrent un vivier enclos de palissades, un puits, et se trouvèrent enfin au seuil de la demeure centrale. Une lourde porte de bois, arrondie dans le haut et cloutée comme une porte de presbytère, était à demi ouverte. L'élégant s'y engouffra. Maune le suivit. Et, dès ses premiers pas dans le corridor, il se trouva, sans voir personne, entouré de rires, de chants, d'appels et de poursuites. Tout au bout de celui-ci passait un couloir transversal. Maune hésitait s'il allait pousser jusqu'au fond ou bien ouvrir une des portes derrière lesquelles il entendait un bruit de voix. Lorsqu'il vit passer dans le fond deux fillettes qui se poursuivaient, il courut pour les voir et les rattraper, à pas de loup sur ses escarpins. Un bruit de porte qui s'ouvre, deux visages de 15 ans que la fraîcheur du soir et la poursuite ont rendu tout rose, sous de grands cabriolets à brides. Et tout va disparaître dans un brusque éclat de lumière. Une seconde, elles tournent sur elles-mêmes par jeu. Leurs amples jupes légères se soulèvent et se gonflent. On aperçoit la dentelle de leurs longs, amusants pantalons. Puis, ensemble, après cette pirouette, elles bondissent dans la pièce et referment la porte. Maune reste un moment ébloui et titubant dans ce corridor noir. Il craint maintenant d'être surpris. Son allure hésitante et gauche le ferait sans doute prendre pour un voleur. Il va s'en retourner délibérément vers la sortie, lorsque, de nouveau, il entend dans le fond du corridor un bruit de pas et des voix d'enfants. Ce sont deux petits garçons qui s'approchèrent en parlant. « Est-ce qu'on va bientôt dîner ?» leur demande Mône avec aplomb. « Viens avec nous !» répond le plus grand. « On va t'y conduire !» Et avec cette confiance et ce besoin d'amitié qu'ont les enfants, la veille d'une grande fête, ils le prennent chacun par la main. Ce sont probablement deux petits garçons de paysans. On leur a mis leurs plus beaux habits, de petites culottes coupées à mi-jambes qui laissent voir leurs gros bas de laine et leurs galoches, un petit juste au corps de velours bleu, une casquette de même couleur et un nœud de cravate blanc. « La connais-tu, toi ?» demande l'un des enfants. « Moi ?» fait le plus petit, qui a une tête ronde et des yeux naïfs. « Maman m'a dit qu'elle avait une robe noire et une collerette, et qu'elle ressemblait à un joli pierrot. »« Qui donc ?» demanda Mône. « Eh bien, la fiancée que Franz est allé chercher !» Avant que le jeune homme ait rien pu dire, ils sont tous les trois arrivés à la porte d'une grande salle où flambe un beau feu. Des planches en guise de table ont été posées sur des tréteaux. On a étendu des nappes blanches et des gens de toutes sortes dînent avec cérémonie.